Bienvenue sur Storylifique, le podcast qui plante des arbres avec vos oreilles. Ce jour, j'ai le grand plaisir d'interviewer Inka Bélez de la Principauté d'Andorre dans les Pyrénées. Journaliste, guide de haute montagne, elle est montée régulièrement sur les podiums des championnats mondiaux de ski alpinisme de 2013 à 2016, discipline dans laquelle elle a remporté plusieurs médailles, dont une médaille d'or au JO de 2013. Rencontre avec une sportive accomplie dans une discipline particulièrement ardue. Bonsoir Inka.
Bonsoir.
D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le ski de rando, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le ski de rando, c'est un sport d'hiver qui se pratique en montagne, généralement hors des pistes, et qui consiste à monter et à descendre des montagnes, finalement. C'est ça, le ski de rando.
Elle oublie de dire que c'est à pied, hein ? On ne prend pas de... On monte bravement avec ses skis, les peaux de phoque, et quand ça craint vraiment, on les met sur le dos. Donc, c'est pas tout à fait à la portée du premier touriste venu.
C'est ça. En général, au niveau du matériel, comme tu disais, en Bénédicte, on utilise des skis avec des fixations spéciales et des chaussures aussi qui sont spéciales pour le ski de rando. La partie avant de la chaussure est fixée à la montée et la partie arrière non. Et on monte les montagnes avec des peaux de phoque, ce qu'on appelle maintenant évidemment hélesons synthétiques. Mais avant, c'était des vraies peaux de phoque qui te permettaient de monter sans glisser en arrière. Quand on est en haut de la montagne, on enlève les peaux, on bloque les fixations, et on bloque aussi les chaussures et on peut descendre un peu comme si c'était du ski alpin, mais avec du matériel un peu plus léger. Voilà.
Oui, c'est un matériel très, très, très léger en fait, hein, que tu as. Tu sais les matériaux ?
Oui, oui, les skis en général, je parle au niveau de la compétition, c'est des skis à 700 grammes avec les fixations. C'est la limite, disons, par en dessous, hein, les plus légers du monde. Et après, au niveau des chaussures, il y a des chaussures en carbone qui pèsent sur les 500 grammes. Pour vous faire une idée, ça pèse rien. C'est-à-dire, tu as la sensation que tu n'as rien sous les pieds, vraiment. Mais après, en descente, c'est vrai que ce n'est pas comme des skis d'alpin. Tu sens vraiment que tu as comme des plumes dans les pieds. Alors, il faut faire attention. Et bon, il faut skier un peu adapté à notre sport, quoi. Voilà.
Et donc, tu as commencé avec tes parents qui étaient déjà eux-mêmes dans la compétition dans ce sport-là.
Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je viens de l'Andorre, au milieu des Pyrénées. Ma mère, elle est également d'Andorre. Et mon papa, il est des Pyrénées espagnoles. Et tous les deux ont fait de la compétition. Mon père dans les années 70 au niveau international et après avec ma maman dans les années 80 en compétition en équipe mixte. Et après moi je suis née en 93. Dès que j'étais très très petite, vers les 7-8 ans, ils m'ont mis des skis au pied. En fait, l'anecdote des skis, c'est que j'avais un pied qui était très grand pour mon âge. Je faisais à cette époque 7-8 ans, je faisais un 35. Et ils se sont dit, bah, si elle fait le pied qui rentre dans les chaussures de ski de rando, bah, allons-y, et elle commence à en faire. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai commencé aussi jeune. Généralement, les gens ils commencent un petit peu plus tard. Et au début, je ne faisais pas de grande rando, hein.
On imagine.
Des petites rando, mais bon, j'étais déjà initiée, quoi.
On imagine tes parents en train de mesurer ton pied tous les mois. Non, pas encore.
C'est bon. Je les imagine aussi.
Et donc, avec tes parents, tu faisais donc des petites balades. Ça se passait comment ? Ils t'ont tout de suite poussé à aller de plus en plus loin ? Ils avaient vraiment envie de partager avec toi leur passion ?
Oui, depuis toute petite, on a fait beaucoup de montagnes, surtout l'été ici en Andorre et dans des voyages. Et à la fin, ben, j'y prenais goût. Hein. Aussi, mes parents, c'était un peu mes entraîneurs. Et à la fin, ben, ils arrivaient à me motiver pour faire de longues sorties, finalement, pour mon âge. C'était toujours avec des histoires. Ils devaient me raconter plein de trucs pour que je continue à avancer, quoi. Mais finalement, ça a été un peu ce qui m'a permis d'être plus endurante plus tard. Tous ces petits entraînements que je faisais avec eux. Et en ski de rando, quand j'ai commencé, je faisais évidemment pas de grosses rando. C'était juste des petites balades et après on rentrait à la maison. Et je combinais ça un petit peu avec le ski alpin aussi. Mais oui, je m'amusais, hein, avec mes parents. Oui, on passait du bon temps.
Voilà, pour la petite histoire, c'est ta maman que j'ai rencontrée d'abord. Et c'est vrai qu'elle m'a donné plein de petites astuces pour faire avancer mes filles en promenade en m'expliquant comment elles faisaient avec toi. Je crois qu'effectivement, t'étais d'entre de bonnes mains pour toujours dire, il faut leur raconter des histoires, il faut leur faire découvrir des petits trésors, il faut avoir... Enfin voilà, elle m'a vraiment pris à donner toutes les astuces d'animation qu'elle a eues pour... Ben, ça a bien donné, hein, puisque tu lui as quand même ramené quelques belles prouesses sportives. Donc, la compétition maintenant... Tu y es venue assez naturellement puisque tes parents étaient dedans et tu as pris tout de suite goût ou...
Oui, finalement, mes parents ne m'ont jamais poussée à faire de la compétition. Mais quand j'étais adolescente, vers les 13 ans, je suis rentrée dans la fédération de montagne sans aucun objectif compétitif. Alors on faisait des sorties montagne un peu plus poussées avec d'autres jeunes et je m'amusais bien. Et finalement, la compétition, elle est venue parce qu'en 2010, on a eu les championnats du monde ici en Andorre. Et de part de la fédération, ils m'ont proposé si je voulais y participer. Et j'ai dit, d'accord, allez, allons-y. Mais j'avais jamais fait de compétition, en fait. Et ça a été ma première compétition. C'était assez bizarre parce que je voyais d'un côté que c'était une compétition internationale, mais j'avais zéro expérience. Alors, ça a été un peu un choc entre les deux, d'être complètement, n'avoir aucune idée de la compétition et se retrouver dans une compétition d'un tel niveau. Mais bon, je me suis beaucoup amusée. Ça a duré une semaine avec différentes épreuves. Et finalement, j'ai pris goût et j'ai continué. Ça a commencé très naturellement et j'ai continué, oui, oui.
Et ça s'était bien passé, cette première compétition ?
Oui, oui, j'étais cadette. Je connaissais même pas les autres compétitrices, quoi, parce que je les avais jamais fréquentées. Et ça s'est très bien passé, et surtout au niveau, pas uniquement le résultat que j'ai fait, je me souviens, quatrième ou un truc comme ça. Mais ce que je retiens le plus, c'est d'avoir connu plein de gens qui aimaient aussi ce sport. Parce qu'en fait, en Andorre, il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient ce sport, surtout des jeunes. Et je me souviens beaucoup de dire « Ah, il y a d'autres filles qui en font aussi !» Et c'était chouette, surtout au niveau de la rencontre, plus que le résultat, quoi.
Ah ouais, tu avais quel âge encore alors,
hein? J'avais sur les 16 ans à peu près. Oui, oui, 16 ans.
Sur les 16 ans.
J'étais au lycée ici en Andorre aussi, que j'étais dans les dernières années de lycée. Et je me souviens d'arrêter l'école une semaine. Je me dirais, oh, ça change du quotidien, quoi. Oui.
Et donc là, c'est là que tu as vraiment décidé de faire la compétition plus sérieusement et d'aller à l'école en France, c'est ça, pour pouvoir continuer?
Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à faire plus de compétitions. Pas beaucoup à cette époque, mais quelques-unes pendant l'année, surtout parce que aussi, j'avais le bac à passer et je pouvais pas partir tous les week-ends non plus. Mais j'ai continué après, au moment de décider mes études, vers où aller, je me suis dit que Font-Romeu, qui est un petit village en France qui est pas très loin de l'Andorre et où il y a aussi des montagnes tout près pour s'entraîner, était une bonne option. Il y avait une faculté de sport là-bas. Les profs et tout le monde là-bas étaient très proches par rapport aux athlètes qui faisaient des compétitions. On avait comme un statut de haut niveau et ça me permettait de partir les week-ends faire des compétitions, de m'entraîner en montagne. Et ça a été super. J'ai passé 3 ans à Font-Romeu. J'ai pu bien m'entraîner, continuer mes études. C'était mon objectif de ne jamais abandonner cette partie d'études pour moi.
Et donc, tu t'entraînais combien d'heures par jour?
Ça dépendait un peu des jours, hein, mais en général, c'était peut-être, ça dépendait aussi un peu de l'époque, mais peut-être entre 2 et 4 heures le matin et une petite récupération l'après-midi d'une heure. Mais c'est vrai que au niveau de l'université, c'était important d'avoir de la flexibilité, quoi, surtout, pour pouvoir partir les week-ends si tu partais dans les Alpes ou on partait mercredi et on rentrait le dimanche. Et aussi au niveau des entraînements, de pouvoir adapter un petit peu toutes les classes, quoi, pour nous. Ça, j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir pu être dans cette université où on prenait vraiment soin des athlètes, quoi. Et tu pouvais suivre. Oui, c'est ça.
Et donc, tu as été dans le circuit de la compétition pendant combien d'années environ?
7 ans, dans le circuit international, disons. Dans le circuit de Coupe du Monde et Championnat du Monde. Et à part ça aussi, dans D'accord. quelques grandes courses, dont on parlera possiblement plus tard.
Oui, oui, tout à fait.
Ça a été 7 ans de ma vie un peu vouée à la compétition, voilà. Après, m'être retraitée, comme je dis, j'ai continué à en faire quelques-unes, mais plus pour le plaisir. pas tellement dans l'esprit compétition, mais plutôt dans l'esprit convivialité de la course. Voilà.
Et donc, tu as ramené une médaille d'or.
Ça, c'était en 2013, dans ma dernière année junior, où on a fait des championnats du monde qui étaient dans les écrins en France. Et oui, cette année, ça a été peut-être ma meilleure année au niveau compétitif, quoi. Et j'ai eu la médaille dans une modalité qui s'appelle le sprint, qui est une modalité de course qui dure très peu, peu de dénivelé, mais très technique, disons, où tu dois vraiment dominer la partie technique et être très explosif. C'était ma modalité, disons, qui me plaisait le plus.
D'accord.
À part les d'autres modalités, mais c'est là où je me sentais le plus, disons... en forme, voilà.
Et donc, tu as été championne du monde sprint junior,
voilà, oui,
en
oui.
2013, c'est ça.
Après, j'ai continué et voilà, j'ai eu quelques podiums aussi en catégorie inférieure à 23 ans et quelques aussi, je me souviens, un top 10 en catégorie senior pour c'est mes meilleurs résultats.
Et c'est toujours en sprint ou non? Là, à ce moment-là, il y avait aussi d'autres...
En sprint aussi. C'était ma modalité.
Toujours. C'est vraiment
où, oui, je me
truc.
Sentais... Oui, mon truc, c'est ça. C'est la modalité que j'aimais le moins, disons, ou qui était le moins faite pour moi, c'était les verticales. Les verticales, c'est une course de à peu près 30 minutes, mais qu'une montée. Il n'y a pas de descente ni rien, c'est purement physique. Un effort très très dur pendant une trentaine de minutes. Le sprint avec la technique, c'est plutôt beaucoup plus court. Il y a plusieurs types de manipulations. Tu dois aller une partie à pied, c'est très dynamique, quoi. Une partie avec des conversions où on monte, une partie plate, la descente, le skating, c'est tout comprimé en 3 minutes.
Ah oui, oui. Ça sonne un peu comme le triathlon de la même discipline,
oui.
Où on fait 36 choses avec...
voilà, il y a beaucoup de techniques impliquées.
Là, tu parles beaucoup de plaisir. La compétition, pour toi, c'était pas nécessairement gagner à tout prix, c'était aussi te faire vraiment plaisir. Oui, bien sûr, on a toujours envie de ramener un podium, mais tu parles beaucoup de cette notion de plaisir.
Oui, c'est ça. Hein. Pour moi, du moment que je prenais plaisir, j'étais contente, quoi. C'était pas le plaisir, il n'était pas forcément lié au résultat. Mais au niveau plutôt émotionnel, quoi. Que j'aimais beaucoup la partie compétition parce qu'en fait, les gens du monde de la montagne, en général, sont des gens très simples et on se retrouvait toujours, même en circuit Coupe du Monde, des Italiens, des Français, des Suisses, Espagnols, un peu des gens de partout où on partageait la même passion dans un sport qui est un petit peu minoritaire. Mais ça fait aussi que l'ambiance est très détendue et où on passe du bon temps, quoi, entre tous. Ça me remplissait vraiment au niveau émotionnel de partager la montagne avec des gens d'autres endroits qui prenaient autant de plaisir que moi. Voilà,
c'était formidable. Et j'ai retenu aussi, on va justement parler des grandes courses, que tu trouvais que le plaisir était encore plus important quand c'était des podiums qu'on gagnait à deux, parce qu'il y a des courses en tandem dans ta discipline. Tu peux nous expliquer?
Les courses en général en tandem, on appelle ça les grandes courses, c'est des courses mythiques, vraiment très très anciennes. Et ces courses, elles reprennent un peu ce que j'aime appeler l'esprit ou l'essence du ski alpinisme ou le ski de randonnée. Hein. Et cette essence, c'est d'être en montagne, ensemble, disons par équipe de deux ou de trois, pour la sécurité, quoi. En fait, tu n'es jamais tout seul quand tu vas en haute montagne, parce qu'en fait, le fait d'être ensemble, ça, c'est plus sûr. Disons, avant, c'était vraiment le cas, quoi. Dans les courses qu'on faisait il y a une cinquantaine d'années, mais si tu n'étais pas à deux, c'était pas organisé comme de nos jours, quoi. Tu pouvais te retrouver dans une crevasse ou tu sais pas. Mais ça s'est conservé, cette essence du ski de rando. Et maintenant, elles existent encore, ces courses mythiques. Et il y a vraiment, c'est une ambiance complètement différente. En plus, courir à deux, comme tu disais, ça te remplit, quoi, en fait. Tu n'es pas tout seul, quoi. Ça devient d'équipe. Tu dois prendre soin de l'autre, l'autre doit prendre soin de toi. Et tu dois bien t'entendre, tu dois gérer aussi l'effort entre deux personnes. Et ça, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est mes compétitions préférées. Même si le sprint, c'est la compétition qui est le plus adaptée à mon physique, disons, celle que je préfère, c'est les grandes courses, les courses par équipe au niveau du partage. En fait, dans les dernières années où je n'ai plus fait de compétition, les seules de compétition internationale, les seules que j'ai continué à faire, c'est des courses par équipe, pour le plaisir. Même si je n'étais pas hyper entraînée, ben c'est celle que j'aime le plus. Et en plus, l'ambiance, elle est vraiment très, très, disons, l'atmosphère de chaque course spécifique est très chouette. Tu as beaucoup de gens qui viennent encourager. Il y a des organisations qui sont vraiment vouées à l'événement, quoi. Voilà, ça c'est super. En plus, c'est des gros dénivelés également et c'est toujours en montagne. On ne touche pas de piste du tout. Ça, c'est aussi ce que j'aime moi du ski de rando, de retrouver la montagne, vraiment haute montagne et ne pas être conditionné par la station de ski, quoi.
La liberté totale.
Oui,
c'est ça. Tu peux nous parler un peu de ces grandes courses? Tu peux nous donner un ou deux d'exemples? Oui. Il y en a une qui se fait de nuit, c'est ça? Ça, c'est vraiment un truc où en plus, vous êtes encordé. Pour monter, oui. Je peux encore comprendre, être encordée. Mais alors pour la descente, je me dis, mais ça doit quand même être vachement compliqué. De nuit en plus.
De nuit en plus, oui, oui. Il y a beaucoup de différentes grandes courses, hein, mais une d'entre elles, c'est comme tu dis, la patrouille des glaciers. C'est une compétition qui se passe en Suisse, où tu dois relier à Zermatt, à Verbier, en fait. Et c'est une course qui est assez longue. Alors, généralement, c'est par équipe de trois. Moi, l'année où je l'ai faite, j'ai eu la chance de courir avec deux filles qui étaient suisses. Je ne les connaissais pas beaucoup, hein, mais on s'est dit, bon, comme elles étaient sympathiques, je me suis dit, on peut faire une bonne équipe, quoi. Et finalement, dans cette course, le départ se fait de nuit, complètement, et tu arrives le matin à Verbier. Et tu peux choisir ton horaire selon, disons, les passages obligatoires. Nous, par exemple, on a fait le départ à 11h la nuit, disons. On a fait le départ de nuit. Et c'est une course qui est exceptionnelle. En plus, c'est une course qui est militaire, qui est des plus anciennes qui existent. Et tout au long du parcours, même si c'est de nuit, tu retrouves des militaires qui, du noir, tu sais, tu te tournes, tu vois un militaire ici, un militaire, qui sont les contrôles de la course. Et en fait, tu commences dans une très longue montée.
Parce que c'est pas éclairé alors?
C'est pas éclairé, non, non, on va avec nos frontales, quoi. Tu retrouves des gens un peu partout, hein, finalement. Alors tu fais le départ de nuit. Et après, il y a un point où tu dois passer par un glacier. Alors tu dois t'encorder. Mais tu es à trois. C'est 1h du matin, il fait très très froid généralement, et parfois les mains sont glacées, t'arrives pas même à t'encorder, c'est vraiment, tu te dis, mais où est-ce que je me suis mis, quoi. Et après tu t'encordes, tu dois descendre la nuit, pouf, c'est vraiment exceptionnel, avec la silhouette du Matterhorn qui se dessine, et c'est une expérience super, vraiment, très très chouette. Et après, aussi, au niveau des ravitaillements, tout doit être vraiment très organisé. Tu dois avoir des gens un peu partout qui te donnent leur ravitaillement. C'est une course super, vraiment. Et moi, j'ai l'image de nuit de descendre voir des étincelles, des quarts de ski des gens qui touchaient les cailloux, tu sais, les pierres, et ça faisait des étincelles. Et comme tu es un peu, tu sais, en hypoglycémie, tu te dis, mais c'est quoi ce truc des étincelles qui sortent? Tu sais pas vraiment, mais c'est exceptionnel. Chaque grande course a son caractère propre, disons. Celle-ci, c'est au niveau de la longueur, la nuit, reliée de villages mythiques, retrouver cette ambiance militaire d'avant. Après, sinon, il y en a une autre qui s'appelle Pierra Menta, qui se fait en France, qui dure en 4 jours, tu fais 10 000 mètres de dénivelé. Et c'est comme rentrer dans une bulle. Pendant 4 jours, tu es complètement isolé du monde avec cette course se fait à deux, avec ton coéquipier. Et c'est chaque jour, allez, une autre étape, une autre étape. Et il y a une ambiance vraiment extraordinaire. Plus de 3000 personnes en montagne, l'étape qui est la reine, le samedi. Tu montes jusqu'à une montagne où il y a 3000 personnes qui t'encouragent d'un coup et tu te dis ouf. Et elle est super, vraiment.
Ah oui, je crois que tu m'avais envoyé un lien d'une vidéo YouTube où on voit justement cette ambiance où tout le monde encourage au sommet. C'est génial. Je vais la mettre sur le site de Storylifique pour que les gens puissent se donner une idée de ces ambiances de feu qu'il peut y avoir sur ce genre de circuit. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant.
Oui, on n'imagine pas que 3000 personnes puissent monter à 5 heures du matin pour encourager les coureurs là-haut, quoi. Elle est super. Et comme celle-ci, chaque grande course a son ambiance, quoi, vraiment. Chacune est différente et ça vaut le coup de les faire pour la vivre, quoi, l'expérience.
Ouais, c'est de belles découvertes, les vidéos que tu m'as envoyées, que je vais partager d'ailleurs. Et après, donc, après la compétition, tu as changé d'orientation. Tu t'es rendu compte à un moment... Bah oui, on peut parler du mental d'ailleurs en compétition. Parce que tu m'as dit, dès que ma motivation a commencé à un peu baisser pour la compétition, les résultats ont fait de même tout de suite. Donc, ton physique n'avait pas changé tout de suite. Mais donc, quand la tête n'y est pas, les résultats n'y sont pas non plus.
Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Sinon, tu travaillais comment ton mental avant les compétitions?
Mais en général, au niveau des compétitions, c'était surtout faire une bonne reconnaissance des parcours, bien organiser, être calme surtout. Hein. Être calme, pour moi, c'était... reconnaître le parcours, savoir où est-ce que j'ai les ravitaillements, contrôler le matériel et avoir un peu des routines. Ça, ça me donnait de la tranquillité pour affronter la course. Pour moi, c'était surtout ça. Et aussi, ne pas... En ski de rando de compétition, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de toi. Surtout le matériel. Tu peux d'un coup casser quelque chose et tu dois essayer de, pendant la course, pas de te démotiver et dire « j'arrête ». Si tu peux... Il y a des façons de continuer toujours.
Tu avais trouvé une très bonne façon de continuer une fois sur une compétition, tu nous racontes ?
Oui, en fait, quand j'étais plus jeune, que tu n'as pas tellement d'expérience, j'ai eu beaucoup de soucis généralement avec le matériel parce qu'il y en a tellement et c'est tellement fragile que tu peux casser facilement quelque chose, perdre quelque chose. Et la fois où ça a été le plus flagrant, ça a été à la Pierramenta, dans cette grande course où c'était ma deuxième participation peut-être et j'étais toute jeune. J'y allais avec une copine catalane et quand tu vas, c'est comme très, très chouette d'aller là-bas, c'est l'objectif presque de la saison. Et on était toutes les deux en train de monter et il y avait une transition. Une transition, c'est un changement de peau. Soit tu les mets, soit tu les enlèves. Alors on est arrivé à un endroit où il fallait remettre les peaux. Alors moi j'enlevais, c'était comme une petite colline avec une pente et la pente terminait dans une forêt, mais tout était très glacé. Alors j'ai enlevé mes deux skis à la fois. Et j'ai vu qu'un ski commençait à dévaler la pente. Je me suis dit, oh non, 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 je ne peux pas perdre le ski. Alors, je me suis lancée sur le ski. Et avec l'autre pied, j'ai donné un coup à l'autre ski. J'ai perdu les deux skis en pleine course. Et je suis restée dans l'air de transition en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma copine m'a regardée. Elle me disait, mais comment tu as pu faire ça? Et alors je me suis dit, bon, il faut chercher quelque chose. Et j'ai demandé, je me souviens au contrôleur, je lui ai dit, tu peux me prêter tes skis? Comme ça, soudainement. Et il m'a dit, oui, 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 prends mes skis. Et il m'a prêté des skis qui étaient évidemment très, très lourds et qui étaient des skis de freeride. Et qui n'étaient pas mon numéro de chaussures, quoi. Ils étaient trop grands pour moi. Et je lui ai dit, merci, merci. Et il m'a dit, bon, après je récupère tes skis et je te les ramène. Je me suis dit, d'accord, d'accord, je continue. Et on a continué, j'ai essayé de trouver des skis à mon numéro de chaussures et je n'ai pas réussi. Et j'ai descendu la dernière descente.
T'as demandé à tous ceux que tu croisais, en fait.
Oui. Donc... Je leur disais, un 26, c'était mon numéro de chaussures, tu sais, je leur disais, un 26. Et tout le monde, non. J'ai rechangé les skis au milieu du parcours, mais ils m'allaient pas non plus. Et j'ai terminé la course finalement avec une descente très dure de 1000 mètres de dénivelé dans la forêt, en train de pleurer parce que j'avais mal aux jambes de ne pas pouvoir fermer la chaussure. Et après, on a terminé. Et je me suis dit, bon, au moins, on peut continuer le lendemain. Parce que si tu termines pas, tu peux plus continuer. Et j'ai récupéré mes skis, j'ai rendu tous les skis que j'avais demandé. Et bon, j'étais contente. Parfois, c'est vrai qu'avec le matériel, tu peux rien faire. Parce que s'il y a la fixation qui casse, tu peux plus mettre la chaussure, t'as plus rien à faire, quoi. Mais si tu peux, c'est des moments où tu peux être vraiment mentalement démoralisé complètement au niveau, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux plus continuer. Et si tu peux chercher des astuces pour continuer, ben c'est bien, quoi. Et voilà. Mais au niveau mental, pour moi, c'était ça, hein. Je stressais pas beaucoup, beaucoup. Mais bon, si y avait des trucs qui étaient bien contrôlés. Voilà. Et après, au niveau de... Quand j'ai arrêté, oui, c'est comme tu disais, finalement, j'ai vu que le mental ne suivait pas, quoi. Et quand le mental ne suit plus, le corps ne veut plus suivre non plus. Et même si tu continues à t'entraîner, si tu te sens un peu forcé, ça commence à ne plus marcher, quoi, tout le mécanisme. C'est là où je me suis dit, bon, faut plus continuer. J'avais aussi d'autres objectifs. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais j'ai continué à faire des compétitions locales. Et j'ai repris plaisir, en fait, après, avec les compétitions locales, sans avoir, disons, une vie tellement structurée au niveau des entraînements, de l'alimentation, avec tout ça. Voilà.
C'était un bon parcours, en tout cas. C'est vrai que les images qu'on voit sont très belles. Mais tu disais, justement, à propos des images, ça n'a pas fait que faire du bien à... Oui. À la compétition, à l'expérience. Tu me disais par exemple que les championnats étaient de plus en plus axés télévisuels et que ça rendait les courses moins intéressantes. Tu disais il y a de plus en plus sur piste. C'était pour les Olympiques,
voilà,
ça, je ne
voilà.
sais plus ce que tu m'avais
c'est
dit.
C'est ça, comme le sport est en train d'aller vers l'olympisme en fait, mais pour l'olympisme, on a besoin que ce soit un sport très facile, disons, à filmer, à retransmettre par la télé. Et beaucoup de skieurs alpinistes, ce qu'on aime, c'est partir en haute montagne, pas rester dans les stations de ski, parce que ça n'a pas trop de sens pour nous de faire une course individuelle. Les individuelles, c'est comme les grandes courses, mais tout seul et sur piste, quoi. Alors, c'est pour ça que, avec les grandes courses, par exemple, le continue à être très axé montagne, mais dans certains autres parcours, disons qu'on perd un peu l'essence de ce qu'est le ski alpinisme de toute la vie, quoi, de tout le temps. Et c'est pour ça que, ben, pas tout le monde a cette opinion, mais pour moi, les courses que j'aime le plus, c'est les courses haute montagne, quoi. Voilà. Et avec cette, disons, la direction pour à l'olympisme, c'est en train de devenir un peu plus piste. Ce que beaucoup d'entre nous, on n'aime pas.
Voilà, ouais, ouais.
C'est ça.
Et donc, par contre, j'ai revu des très, très, très belles images après parce que tu as complètement changé d'orientation. Tu peux nous expliquer Himalaya Ski, comment c'est arrivé dans ta vie,
oui, en fait,
ce nouveau chapitre.
J'ai décidé d'arrêter la compétition. C'est un moment, je pense, pour tous les athlètes un peu, où tu es un peu perdu parce que t'as eu une vie très structurée pendant beaucoup de... très longtemps, disons. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais. Moi, dans ma tête, je savais que je voulais évidemment me mettre à travailler et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais en parallèle, je sais pas, je me souviens d'un jour où j'ai regardé une vidéo sur Internet et c'était d'une athlète catalane qui partait avec un groupe filmer un documentaire en Norvège. Et je me suis dit, c'est trop chouette. Je me suis dit, moi, je veux faire ça. Et j'ai eu la chance à travers d'une copine que cette équipe a fini par me contacter. Et je me suis dit, ça a été comme un cadeau tombé du ciel, quoi. Parce que après la compétition, mon but c'était de faire beaucoup de montagnes, mais aussi de voyager avec les skis au pied, quoi. Et quand ils m'ont dit si je voulais intégrer l'équipe, je me suis dit, oui, 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 je veux venir dans votre prochain voyage. Et ils m'ont dit, d'accord, parfait. Mais on part à Ossétie du Sud. Et je me suis dit, ben d'accord, mais je viens. Et je ne savais pas où c'était. C'était comme, je me suis dit, j'ai dit, oui, oui, je viens, pas de problème. Et voilà, et ils m'ont prise un peu parce que j'étais athlète, mais aussi parce que j'étais journaliste. Et ils avaient aussi besoin de quelqu'un à ce niveau. Et bon, ils m'ont dit oui, Ossétie du Sud.
Du coup, où est l'Ossétie du Sud?
Voilà, où est l'Ossétie du Sud? Alors, je me suis dit, bon, mais je suis arrivée chez moi, j'ai regardé sur Internet et tout. Je me suis dit, ah, Ossétie du Sud. C'était au nord de la Géorgie et au sud de la Russie. C'est un territoire qui s'est déclaré indépendant, mais qui n'a jamais été reconnu par l'Occident comme indépendant. Alors, c'est un territoire, vraiment un pays qui n'existe pas vraiment. C'est un pays un peu qui est là, mais dont personne n'a beaucoup entendu parler, très isolé, protégé militairement par la Russie. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait eu des guerres en 2008, tu sais, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais où est-ce que je me suis mis?
Ça y est, j'arrive en zone de conflit.
Voilà. Et alors, j'en ai parlé à mes parents qui ont beaucoup voyagé dans les années 80 aussi, des voyages aventureux. Ils m'ont dit, oui, oui, vas-y. Mais d'autres gens me disaient, tu es complètement folle, n'y va pas. Alors, ça a été, bon, comme je fais confiance à mes parents, je me suis dit, ben, j'y vais. Et ça a été une super expérience, quoi.
Il faut déjà réussir à rentrer dans le pays, apparemment.
C'est ça, c'est ça. Et c'était le plus compliqué, ça a été d'obtenir un permis pour y aller. Mais le manager de l'équipe s'est mis en contact avec le gouvernement directement et ils nous ont dit qu'ils nous invitaient parce qu'ils aimeraient faire un peu de promo du pays aussi au niveau touristique, parce qu'ils recevaient jamais vraiment de touristes à part de la Russie et qu'ils aimeraient mettre en valeur la belle culture et le beau territoire qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé rentrer. On était tout le temps avec un guide et ils nous accompagnaient partout. Mais eux, ils ne faisaient pas du ski de rando, les gens locaux. Ils faisaient du ski alpin, mais ils n'avaient pas de station de ski. Ils prenaient les skis d'alpin, ils les mettaient au dos, ils montaient une pente comme avant en Andorre, en fait, avant les stations de ski en Andorre. Et ils descendaient. Et quand ils ont vu notre matériel, ils se sont dit « Waouh !» Et alors, on a été un peu, disons, les premiers à pouvoir skier les montagnes là-bas, parce que jamais, on n'y était jamais allé, disons, pour faire du ski, quoi.
C'est génial. Mais vous, vous êtes petite aussi, dit « Waouh !» Ils arrivent à monter, à redescendre avec ce matériel-là. Peut-être que vous êtes peut-être dit « Waouh !» dans les deux sens.
Oui, parce que le premier jour où on s'est retrouvés, ils nous ont dit « On vient avec vous !» Et on s'est dit « D'accord, on ne savait pas comment. » Et ils ont mis des raquettes et ils ont pris les skis d'alpin au dos. Et ils ont commencé à marcher derrière. Et après, leur matériel, il pesait beaucoup, beaucoup. Hein. Et quand ils ont vu qu'on commençait à grimper la montagne, ils nous ont dit, nous, on reste là, on ne peut plus vous suivre. Et on s'est dit, d'accord, d'accord. Et aïe, c'était très rigolo. Mais c'était une super expérience. On n'a passé que 6 jours dans le pays, mais 6 jours très, très intenses. En plus, on a été très, très bien accueillis. On a vu le ministre de Tourisme venir nous voir tous les soirs, on mangeait avec lui. Le ministre d'Affaires extérieures aussi, ils étaient super contents que des gens y aillent. Et vraiment, c'est un pays qui est super beau au niveau naturel et qui a une culture vraiment aussi superbe. C'est difficile d'y accéder, mais après, les gens, ils sont tellement sympathiques que vraiment, bon, ça a été une très, très belle expérience.
On te voit trinquer à l'alcool local sur la petite vidéo que je vais aussi mettre en lien dans le site de Storylifique pour qu'on puisse en profiter. C'est déjà des images de descente absolument fabuleuses. Mais alors là, effectivement, on voit aussi que vous êtes très bien accueillis.
Oui, oui.
Et comment il est l'alcool local?
Il est fort, très fort. C'était du vodka fumé en plus local. Oh mon Dieu, c'était fouf, très fort. Vous le verrez sur la vidéo.
Et alors, quel est ton souvenir le plus marquant alors de l'Ossétie?
Un jour, on est parti essayer de faire un sommet qui s'appelle le Kalatsha, qui n'avait jamais été fait en hiver, mais comme presque tous les sommets là-bas. Et les gens locaux, ils nous disaient « Mais vous êtes fous ? Non, non, n'y allez pas !» Et on s'est dit, bon, on ne prend pas de risque, quoi. Si on voit que ça ne va pas, ben on redescendra. On a commencé à monter. En fait, c'était prévu qu'on passe la nuit en montagne dans une tente et après continuer. Quand on a commencé à monter, il y a eu le brouillard soudainement qui est venu sur nous. Alors, on ne voyait rien de rien. Il y avait plein des avalanches de neige humide qui avaient déjà tombé. Mais bon, on devait croiser toutes ces avalanches avec des gros blocs humides. Et en plus, on nous avait dit, on avait vu les jours au préalable, on avait vu un ours au milieu de la montagne, qui en général devait être en pleine hibernation, mais qui n'était pas en train d'hiberner. Et on nous avait dit aussi qu'il y avait des loups. Alors on se disait, bouf, bon. Moi, je me souviens, je disais rien, hein, mais j'étais, on est dans le brouillard, on va planter la tente, il y a l'ours, il y a des loups. Après, on n'a pas de secours non plus, parce qu'on n'avait pas de communication avec personne. Il n'y a pas de secours de montagne là-bas. Et je me disais, bon, et quand on s'est mis à dormir, ouais, on s'est dit, t'imagines maintenant qu'il y a une avalanche qui tombe sur nous parce qu'on était dans le brouillard total. Et on se disait, bon, ça m'a rappelé un peu les explorateurs d'avant. Maintenant, on est très habitués à voir notre téléphone et si t'as un problème en montagne, ben, tu appelles et on vient te chercher. Mais avant, non. Et c'était une sensation bizarre quand t'es habitué à, disons, avoir les secours qui peuvent venir te chercher. Mais là-bas, je me disais brouillard, plus avalanche, plus ours et loup et pas de secours. Et c'était un mix un peu. Je me disais, bon, si on survit à ça, ça va. Et ça, c'est mon souvenir le plus marquant cette nuit, vraiment, dans la tente, où je me suis dit, bouf, ça, c'était beaucoup d'émotions d'un coup. En même temps, c'était super chouette.
On voit un petit peu sur la vidéo, d'ailleurs.
Oui. C'était... En même temps, je me disais, ah, c'est chouette parce qu'on ne vit pas de nos jours des émotions, je trouve, du moins moi, aussi intenses et aussi être dans le présent, quoi. Là-bas, vraiment, c'était le présent et tu ne pensais pas hier, ni à demain, ni à dans une heure, quoi. C'était très être ici et maintenant, quoi. Ça, j'ai bien aimé.
On vit plus fort.
Oui, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que j'aime du voyage. Tu es vraiment à l'instant présent.
Ah, c'est beau, ça. Et l'ours, alors, il est venu ou pas?
Non, on a trouvé un ours. En fait, au début du voyage, on nous a dit que les ours étaient en hibernation. Et on s'est dit, bon, super. Tu sais, c'était en février en plus. On s'est dit, pleine hibernation. Et le premier jour, on montait et d'un coup, on est sorti de la forêt et on a vu un ours à peu près une 80 mètres de distance. Et il était en train de marcher. Alors, il s'est tourné. C'est qu'on était, on avait l'impression qu'on était les... tous surpris, même l'ours. Il s'est tourné en train de dire « Mais c'est quoi ces gens-là ?» Et nous, on le regardait.
Ils hibernent pas, eux.
Ils hibernent pas. Mais il a continué son chemin. Hein. On le voit aussi sur le documentaire qu'il oui. s'est pas... Bon, il avait pas faim, je pense. Mais après, on a croisé les empreintes. Et on s'est dit « Bouf !» Heureusement qu'il a continué son chemin tranquillement, hein, parce que c'est pas rigolo.
C'est une sacrée bête,
ouais. C'était aussi un moment intense.
Et ça court vite en plus.
Oui, oui, ça court vite. Heureusement aussi, il y avait beaucoup de neige poudreuse et il s'enfonçait beaucoup. Pareil que nous, quoi, en fait. Hein, mais... Et s'il avait voulu venir, il ne serait plus là, peut-être.
Ça, c'était pour l'Ossétie. On dit Ossétie ou Ossétie, d'ailleurs ? Je ne sais pas
Ossétie.
Du tout.
Oui.
Ossétie, voilà, merci. Et alors, tu es aussi allée au Kamtchatka, c'est ça, Kamtchatka ?
Oui, c'est ça.
Et là, c'est
ça.
Où ? Vous cherchez c'est juste les endroits pour envoyer les gens sur la carte ?
C'est
bon,
ça.
On se doute qu'il y a des montagnes, mais à part ça, c'est où ?
Le Kamtchatka, c'est une péninsule vraiment très isolée qui se trouve à l'extrême est de la Russie. Du côté du Japon, hein, presque. Et c'est une péninsule qui, elle est très connue par ses ours et ses saumons. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour ça et pour le caviar aussi. Mais elle est isolée surtout parce qu'on n'y a accès que par avion ou par bateau. On n'y arrive pas, il n'y a pas de route qui donne accès à cette péninsule.
Ah,
il y a
des routes, c'est une péninsule, mais...
Isolée. Isolé complètement. Il y a des routes de la capitale qui se trouvent au sud, vers le haut, mais au milieu de la péninsule, elles s'arrêtent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est comme une île, un petit peu. Et l'idée est venue en cherchant de nouveaux endroits pour notre projet d'Himalaya Ski. Et je me suis souvenue d'une copine à moi qui était, elle provenait du Kamtchatka, qui s'appelle Katia Ositskina. Et c'est une machine, disons, en Coupe du Monde de ski de randonnée. C'est une vraie machine, elle a tout gagné en junior. Et à part ça, c'est une personne qui est encore plus importante. Elle est très, très sympathique, très aimable. Et en parlant avec elle, ça faisait déjà longtemps que je voulais y aller. Et d'autres membres de l'équipe aussi, ça leur disait de... Ils se sont dit, ah, ça doit être super chouette. Et là-bas, il y a beaucoup de volcans aussi au Kamtchatka. Et ça a été notre objectif, finalement, de ce voyage. Ça a été d'aller découvrir la vie de cette championne, de Katia, qui avait 19 ans. Et il y a 2 ans, elle avait 19 ans. Et voilà, découvrir un peu sa vie et aussi l'amener avec nous, découvrir des volcans où elle n'avait jamais été. Ça aussi, avec elle, on a eu la chance de pouvoir faire ça, de vivre, disons, son expérience dans des volcans de sa péninsule qu'elle n'avait pas visité et que vraiment, elle avait très envie de pouvoir faire ce voyage. Ça a été chouette.
Ça aussi, c'est des très, très belles images que vous avez ramenées de là-bas.
Oui, très, très. C'était vraiment magnifique.
Et là-bas, tu as des souvenirs qui t'ont marqué ?
Oui, oui. Là-bas, on a fait beaucoup de choses parce que Katia est une fille super active. Et en plus, on a été avec ses copains là-bas qui sont aussi très, très okay. actifs. Et tout le monde adore la rando. Alors, on a eu beaucoup de chance et on a pu grimper 4 volcans. Et magnifique, vraiment, de la zone et des volcans qui m'ont laissé, pour moi, des images dans la tête que j'oublierai jamais parce que parfois, on est même rentré dans le cratère des volcans. Alors, tu avais des fumerolles, des couleurs jaunes, ocre, des rivières jaunâtres avec des, disons, des couleurs. On dirait qu'on avait fait de la rando sur Mars, ouais. quoi, finalement. C'est une des expériences que tu dois aller au Kamtchatka pour vivre, quoi, de pouvoir skier dans un cratère au milieu des fumerolles, toutes ces couleurs magnifiques. C'était vraiment, Super.
Ah, il y avait la neige là-bas.
Oui.
Même avec les fumerolles, etc., oui. La neige tenait.
Ah, on a fait jusqu'au milieu, au centre du cratère. Après la neige fondée, on a mis les skis au dos. On a passé la partie du cratère. Et après, on les a remis. Mais c'était vraiment super. Les volcans, comme caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils sont très glacés, quoi, en général.
OK.
C'est, la neige est très, très dure. Et c'est des cônes parfaits. Au niveau de certains volcans, mais ça fait bizarre pour nous, en venant des Pyrénées et même des Alpes, de se retrouver à regarder en bas une pente tellement longue sans aucun autre relief. C'était très spectaculaire, quoi.
C'est vrai que les images, en tout cas, donnent vraiment envie. Mais il ne doit pas y avoir tellement de touristes là-bas, ou des touristes russes uniquement, ou...
Il n'y a pas beaucoup de touristes. Et ceux qui vont parfois, il y en a quelques-uns qui vont faire de l'héliski. Nous, on a eu la chance de partir dans des volcans qui étaient peu fréquentés, généralement. C'est une destination assez encore
C'est inconnue. Ce que vous recherchez avec Himalaya Ski, c'est ramener des images de ces endroits encore fort intacts.
Voilà, c'est ça, exactement.
Magnifique.
Oui.
Et tu t'es fait une grosse peur en grimpant un volcan au Kamchatka?
Ah oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, on est parti faire un volcan qui s'appelle Koryatsky. C'est un des volcans que l'on voit depuis la capitale. Tout le monde le voit, c'est-à-dire Katia n'y était jamais allée, mais elle voyait ce volcan depuis la fenêtre tous les matins. Et au début, moi et Katia, on n'est pas alpinistes. Les autres, un peu plus que nous, disons, deux autres garçons de l'équipe. Hein. Mais au début, le premier jour avec Katia, elle se disait... Tu crois qu'on doit aller dans ce volcan? Parce qu'il y avait certaines parties qui étaient assez techniques, quoi. Peut-être, non, on peut essayer si on voit que ça va pas. On se disait entre les deux, ben on descend si on voit vraiment qu'on peut pas y aller. On s'est dit, bon, on monte jusqu'où on peut et si on voit qu'on n'a pas confiance, ben on redescend et voilà. Ben c'est, comme je te disais, un cône parfait. Il y avait beaucoup, beaucoup de dénivelé, presque 3000 mètres de dénivelé en une journée. Ce qui est assez. Katia, évidemment, elle le sent pas parce qu'elle est très, très forte et pour elle, c'est rien. Mais pour les autres, c'était
dur. Et pourtant, les autres, c'est des gens de ton gabarit. Donc, si toi, t'as dur, mais moi, je suis ramassée. Moi, je pleure déjà après les 5 premiers mètres.
Hein. Ah, non, non. Mais bon, on est arrivé au lever du soleil, je me souviens. Et avec Katia, on s'est dit, allez, ben, on continue vers le haut. Et c'est très bizarre, en fait, parce que le volcan, comme il est conique, ben, tu avances, mais tu te rends pas vraiment compte que tu avances, tu sais. Tu vois toujours le sommet qui est loin, le sommet qui est loin. Tu sais, et tu te dis, on va jamais arriver. Et ça a commencé à être très, vraiment très, très glacé, la neige. Et on a commencé à recevoir des pierres qui tombaient du haut du volcan, en fait. Parce qu'en haut, il est chaud, le volcan. Mm-hmm. Et la neige fond et les pierres tombent. Et tu étais concentré à mettre bien tes skis, quoi. Parce que c'était, si tu tombais, tu allais vers le bas, il n'y avait pas d'arrêt possible. Et en plus, avec tous ces cailloux qui tombaient dessus. Après, on a mis les crampons, je me souviens. Avec Katia, on se regardait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? On n'est pas alpinistes, nous. C'était pour moi, disons personnellement, une expérience dure du fait de perdre beaucoup d'énergie dans la partie plus technique. Mais après, en arrivant en haut, c'était super parce qu'on s'est dit, oh, on a réussi, tu sais. C'était comme un objectif qu'on voyait inatteignable complètement le jour avant. Et Katia, évidemment, bon, elle était super contente parce qu'elle s'est dit, ah, j'ai fait le volcan que je vois tous les jours depuis la fenêtre. On a eu des conditions exceptionnelles parce qu'on peut presque jamais le grimper. C'était comme un cadeau tombé du ciel aussi, que tu te dis la possibilité
Plus
d'y
souvent,
aller.
Les meilleurs souvenirs, c'est quand on a eu dur, quand on a peiné pour avoir quelque chose, on l'apprécie d'autant
c'est
mieux.
C'est ça, hein. Là, je ne l'oublierai plus, le volcan.
Et il s'appelait comment, ce volcan, pour voir si vraiment tu ne l'as pas oublié?
Il s'appelait Koryatsky.
Effectivement, elle n'a pas oublié.
C'est ça.
Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la montagne? Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu es comme ça en train de te confronter ou de t'allier à la montagne? Parce que parfois c'est un peu un combat et parfois c'est vraiment une fusion.
Oui, c'est un peu entre les deux, hein, comme tu dis. Généralement, moi, ce que j'aime du ski de rando, c'est la liberté qu'il n'y a pas de chemin marqué, quoi. Que tu crées ton propre chemin. C'est comme un livre blanc où tu peux écrire, ton propre chemin, quoi. Ça, c'est ce que j'aime du ski de rando. En été, c'est différent parce que tu as des chemins qui sont marqués, tu as tendance à les suivre. Mais l'hiver, tout est blanc. Et pour moi, ça, c'est la complète liberté, quoi. C'est ce que j'aime. Et aussi d'être en complète communion dans la nature. De vivre surtout le présent, quand tu es dans un endroit vraiment magnifique, que tu regardes autour, tous ces paysages, tu sens vraiment la nature en toi, quoi. Ça, c'est ce que j'aime. Après, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici que je me suis mis dans cet endroit? Évidemment, il y a beaucoup de risques en montagne. C'est-à-dire que, de ma part, oui, je suis très, très prudente, mais les risques qui sont des risques d'avalanche, des risques d'un changement soudain de météo, le froid, tout ça, c'est des risques qui existent. Et même si on essaie de les éviter, tu es toujours à la portée de tout ça, quoi. Mais bon, pour moi, c'est nécessaire, la montagne, parce que c'est mon milieu, je sens, et je suis heureuse quand je peux y aller, disons, qu'elle est autour de moi. Parce que je suis née ici en Andorre, comme je te dis, mais entourée de montagnes. Et je sens que j'en ai besoin pour vivre heureuse. C'est ça.
Je peux comprendre. Moi, il n'y a pas vraiment de montagnes ici dans notre petite région, mais il y a des forêts et ça me fait un effet similaire. On en parlait l'autre fois. J'aime beaucoup aussi dans votre documentaire à la fin, We Are Nature.
Ah, oui.
Nous sommes la nature. Moi, chaque fois, quand les gens disent j'aime la nature, c'est vrai que je trouve ça bizarre.
Oui.
C'est même pas une question de l'aimer, ça va de soi. On est la nature. C'est cette séparation, moi, qui m'embête plutôt.
Voilà.
Cette impression qu'il y a la nature et nous, ben non, on en fait partie.
Voilà, on est des animaux et on fait partie de tout un écosystème, quoi. On ne dirait pas, parce que tout le monde est dans son petit truc, mais après, quand tu es dans la nature, moi, j'aime bien me sentir part de ça,
ouais,
quoi.
Ouais.
Pas qu'on est séparés de tout, en fait.
Et puis, on se sent tellement plus vivant, en plus. Je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais...
Complètement, complètement.
Et pour ceux qui aimeraient découvrir le ski rando, est-ce que c'est d'abord... Bon, faut quand même un minimum de conditions, je suppose, pour pouvoir s'attaquer à cette discipline. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Tu as quelques petits conseils à donner à ceux que ça pourrait tenter, surtout s'ils voient les images que vous avez ramenées? Alors là, ils vont vraiment avoir envie, parce que c'est vrai que ce qui est sur ces pages blanches, c'est dans cette liberté totale que peut offrir le ski rando, c'est plus qu'alléchant.
C'est chouette, oui. Mais je conseille à tout le monde, hein, surtout les gens qui aiment la nature. C'est vraiment un sport qui est très, très chouette. Et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent maintenant de nos jours et ça prend vraiment, c'est un peu, quand tu commences, je pense que c'est dur de s'arrêter, quoi. Mon conseil, ce serait en premier, disons, d'avoir une bonne base de ski alpin, surtout si on veut faire des randos hors piste, qui est pour moi, disons, le ski alpinisme qui est le plus chouette, disons. Et bien avoir un bon niveau de ski sur piste, du moins. Et hors piste aussi, bien sûr. Et après, si on va hors piste, prendre un guide ou un moniteur de ski de rando pour qu'il t'apprenne un petit peu la technique. Moi, je pense que c'est important d'apprendre la bonne technique dès les premiers jours pour ne pas prendre de mauvais vis. Parce que si on prend des mauvais vis, comme dans tous les sports, hein, mais ils sont plus difficiles à changer que si tu commences sur des bonnes bases. Si tu vas en montagne aussi, un guide te permet d'aller en toute sécurité. Ce qui est important, vu que c'est pas comme l'été, c'est l'hiver, et comme je disais avant, il y a des risques qui sont présents et qu'il vaut mieux éviter. Et après, je dirais aussi, quand tu prends l'habitude déjà, la meilleure chose pour progresser, c'est d'aller en montagne. Et de voir aussi, disons, apprendre des techniques sur différents terrains, sur différents types de neige, parce que le ski de rando, la technique peut être très changeante selon les conditions. Alors, il y a beaucoup de choses où tu les apprends en y allant, et aussi au niveau, par exemple, du matériel, hein, surtout au niveau des peaux et des phoques qui sont souvent capricieuses, et ne rien casser. Et plus tu as de petites techniques dans ta valise, plus tu prendras plaisir en montagne. Voilà pour les petits trucs.
Merci beaucoup pour ce beau voyage dans des pays inconnus. J'aurais appris ce qu'était l'Ossétie, le Kamtchatka, et c'était un vrai plaisir.
Merci beaucoup à toi, Anne Bénédicte, et à bientôt, j'espère, en Andorre. Au revoir.
Cet épisode vous a plu? Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner à Storylific sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée, à lui mettre une évaluation 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Cela aidera énormément à le faire découvrir par d'autres. Votre support est inestimable, car plus il y a d'abonnés, plus nous pourrons planter des arbres avec les oreilles. Le projet résonne en vous? Vous voulez aller plus loin, en savoir plus? Toutes les informations sont sur le site web storylific.com/soutien. Vous trouverez également sur le site tous les liens vers les vidéos dont nous avons parlé dans le podcast, sur storylific.com/podcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour, les images en valent vraiment la peine. À bientôt !